c'est Bruno. Je suis à la Fashion Week de Milan.
Yeah, je vais porter cette nouvelle combinaison, un modèle entièrement fait en velcro.
Sortez yeah. immédiatement.
C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Au secours, je suis coincé. Enlevez-moi. Hey!
Bonjour, bienvenue chez Sears. Je peux vous renseigner?
Vous aurez certainement du mal à me croire, mais je suis gay.
D'accord.
Oh, c'est génial, hein, cette partie des chasseurs. Ouais. Ça, c'est un vrai truc des mecs. Vous trouvez pas que tous les quatre, on dirait les filles de Sex in the City? T'es laquelle, Danny?
Je suis pas une de ces filles, je suis Donny.
C'est exactement ce que Samantha dirait. Angelina en a un, Madonna en a un, et maintenant Bruno en a un aussi. Ma une petite camarade africaniche va me rendre célèbre.
Notre prochain invité est un père célibataire. Faites une ovation à Bruno. Comment s'appelle le bébé?
Je lui ai donné un prénom typiquement africain. Oche.
Quoi?
C'est une soirée échangiste.
Bonsoir.
Allez.
Wow, vous devez produire un max de lait.
Tu dois enlever ça, brûle-toi.
Ah! Oh punaise, t'es pas bien dans ta tête, toi.
C'est quoi cette ceinture, aspirant?
Une DG.
Quoi, une DG?
Dolce & Gabbana, allô?
Allô?
Comment vous esquivez un godemiché?
Est-ce qu'il y a un serrurier de ce côté? Excusez-moi, vous pouvez nous décoincer?
Vous irez brûler en enfer pour ce crime.
Maintenant, comment vous esquivez un mec avec deux cordes de miché?
Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran. On commence par la cagade et la rigolade, ouais. Car c'est un bon sujet qu'on va démarrer l'émission. Salut Guillaume, comment tu vas?
Bah ça va et toi?
Ah bah ça va
ça
très très bien.
Ça peut que aller quand on commence l'émission comme ça.
On commence l'émission avec la bande-annonce de Bruno, car on va parler donc de Sacha Baron Cohen, ce fameux trublion anglais qui a tellement bousculé les codes et la hiérarchie, on va dire, de la satire et de l'humour, à travers l'humour occidental, et forcément de taper à fond les ballons derrière là-dessus. Et donc on va forcément revenir un petit peu sur sa carrière d'acteur. Mais pas que, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, notamment dans ses sketchs, car il vient surtout de la télévision. C'est un humoriste à la base, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il a, un parcours assez, atypique, hein, en fait. Donc, il est né le 13 octobre 1971 à Londres. Il est issu d'une famille juive orthodoxe et, d'ailleurs, issu d'une classe moyenne. Il vit confortablement dans la classe moyenne. Le jeune, en fait, Sacha, va étudier dans le privé et il va se spécialiser donc, dans l'histoire à l'université de Cambridge. Et d'ailleurs, c'est là où il écrira son mémoire sur le rôle des Juifs dans l'American Civil Rights Movement et sur les meurtres de 1964 du ce qu'on appelle le Freedom Summer, où d'ailleurs trois militants pour les droits civiques furent assassinés par les membres du Ku Klux Klan et des policiers du bureau du shérif du comté de Nebraska, Neshoba, pardon. Alors c'est vrai que ça commence à fond les ballons. Non mais c'est vrai qu'il faut quand même revenir un petit peu sur le parcours en fait de cet homme-là, parce que il a une passion pour l'histoire et finalement ça se voit aussi d'une certaine manière, et la façon en fait dont il revient sur le forcément sur les droits civiques, c'est pas étonnant en fait quand on repense à sa filmographie sélective.
Oui, on voit que c'est quelque chose qui est important pour lui, même les injustices, les tout ce qui est de l'ordre du racisme, de l'antisémitisme, oui. C'est des choses qui sont très importantes pour lui et qu'il a besoin aussi de montrer. Et on voit qu'il s'intéresse, son parcours explique aussi le fait qu'il soit aussi virulent dans ses films.
Dans beaucoup de choses. Ouais. Mm-hmm. Alors, entre ses études d'histoire, il va également avoir une révélation dès 1989 pour l'art dramatique, après notamment une apparition dans la pièce de Biloxi Blues de Neil Simon. Ensuite, donc, il va tout de suite rejoindre la troupe de théâtre de Cambridge, donc les Footlights. C'était la troupe de théâtre qui faisait notamment de la comédie, de l'improvisation, mais surtout des gros classiques. Hein. C'est là où il a commencé à apprendre notamment les pièces, on va dire, typiques de Shakespeare et d'autres.
Cyrano de Bergerac, par exemple,
voilà,
il
aussi,
a joué aussi.
Il va vraiment se développer donc d'abord par l'art dramatique, puis après par la comédie. Et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un, comme je disais, de très atypique, parce que finalement, paradoxalement, à ce que l'on peut penser de lui, et notamment à, ses, à son côté trublion comique. Sacha Baron Cohen, en fait, va rester très pratiquant, notamment donc, il va continuer à manger kasher, il va respecter donc, tous les à côté de sa religion, il va notamment le Shabbat, et d'ailleurs il a notamment passé une année dans un kibbutz,
Oui.
Et il est resté d'ailleurs proche de ses parents, qui eux sont forcément de fervents pratiquants. Et à côté de cela, il est également passionné de prestidigitation. Il est membre de, la, de ce qu'on appelle le Magic Circle. C'est un mouvement collectif londonien, en fait, qui réunit tous les grands musiciens, magiciens pardon, du pays.
C'est ça qui est impressionnant. Tu dis, c'est vrai que quand tu le vois dans ses films, tu te dis ouais, « c'est un gros déconneur et tout ». Et en fait, il a une palette de... Il a une palette qui est assez impressionnante. Mais de toute façon, la comédie, c'est quelque chose qui est assez compliqué quand même en vrai à jouer. Et pour pouvoir faire de la comédie, il faut être vraiment déjà très très bon en très bon comédien. Mm-hmm. Et puis après, oui, voilà. De toute façon, tu le sens dans sa façon de jouer, dans sa façon... Il est très bon, quoi. Il arrive à travailler sur les contretemps, sur là où tu l'attends pas. Et donc, c'est assez exceptionnel, quoi. Mm-hmm. Ce mec est génial.
Et comme je l'ai dit, donc après ses études, il va commencer à s'orienter vers plus sur la comédie que l'art dramatique pur et dur. Et après quelques effets infructueux, il va commencer à donc, réussir à avoir un contrat, notamment donc, dès 1996 pour la chaîne Paramount Comedy Channel, qui va l'embaucher en fait, pour des vignettes comiques entre les programmes. Donc c'est vraiment des tout petits sketchs qui vont un peu le lancer véritablement aussi dans la petite lucarne. Donc. Mais c'est vraiment à partir de 98, donc 2 ans plus tard, où il participe à l'émission satirique The 110 O'Clock Show. Donc c'est là où apparaît son premier vrai personnage que l'on connaît forcément à travers sa filmographie, c'est Ali G. Donc Ali G qui, selon son créateur, donc, est un jeune homme contaminé par les valeurs exportées par la société américaine, pensant que pour être cool, il suffit d'imiter ses idoles.
C'est totalement ça, c'est vraiment ce gars qui est fan de hip-hop, qui a envie de... fan de hip-hop, fan de aussi de la culture jamaïcaine et de la banlieue,
justement. C'est pour ça
justement.
Qu'il parle un peu comme eux, il fait Rastafari, man, enfin voilà.
Il s'inspire des banlieues londoliennes et des quartiers jamaïcains et tout, et vraiment dans la façon dont il s'habille, la façon...
Et qu'il met toujours des bonnets.
Voilà, c'est ça. Et il est, c'est le premier personnage qu'il a créé et qui est assez complètement fou, quoi, qui... Il vient déjà titiller les petits trucs et tout.
C'est ça, c'est ça.
À partir, il fait des interviews aussi. Il interviewe des personnalités aussi.
Et ça,
là-bas.
Ça va surtout apparaître en fait avec le deuxième show. En fait, vu que c'est un succès immédiat sur son personnage, en fait, à tel point qu'il va donc avoir son propre programme donc sur Channel 4 qui s'appelle The Ali G Show. Donc c'est là où il va développer également ses interviews un peu prank, ses canulars en fait envers des personnalités notamment politiques, où il va donc toujours interpréter Ali G, vu qu'il a été connu que par ce personnage à la base, donc il va pouvoir en fait en profiter, vu que personne ne connaît Sacha Baron Cohen, pour immiscer ce personnage encore un peu plus dans la réalité, et donc briser le quatrième mur, notamment pas seulement aller par la sitcom, mais également faire des pranks télévisuels pour des personnalités politiques et publiques connues à travers le pays, et forcément à travers le monde, parce que finalement c'est un succès colossal. Il va notamment aussi commencer à créer d'autres personnages à travers cette émission-là, notamment un certain Borat et un certain Bruno, comme on a entendu dans la bande-annonce. Donc en fait, c'est une immense star aux États-Unis dès le départ. À partir de 98-99, il va être ultra connu aux États-Unis. Enfin, surtout Ali G, pas Sacha Baron Cohen. Donc.
On le voit d'ailleurs dans un clip de Madonna.
Voilà, Music, où il va jouer donc son chauffeur
son
de taxi.
De, ouais.
C'est ça, il garde ce personnage Ali G. Hein. Et, dès 2002, en fait, il va avoir son propre film, Ali G in the House, donc qui est renommé Ali G en France, qui est, on peut le dire à travers l'histoire, une sorte de Mr. Smith au Sénat, en fait, à la sauce forcément graveleuse, à la sauce Sacha Baron Cohen. C'est un film qui, pour ma part, je pense, qui a très très mal vieilli, qui n'atteint pas suffisamment, on va dire, à la porte de la satire, comme le va être finalement plus tard ses autres films à travers ses personnages. D'ailleurs, il reviendra au cinéma donc, dès 2006 avec forcément Borat, personnage maintenant ultra culte. Hein, donc l'histoire de Borat, reporter pour la télévision kazakh, qui va donc voyager aux États-Unis en fait, pour y apprendre des leçons culturelles pour son pays. Donc en fait, on est sur un style en plus qui marche beaucoup mieux, je pense, à travers son style d'humour, le mockumentaire, donc le faux documentaire. Et là, on est sur une véritable satire, forcément, de l'antisémitisme, de la misogynie, du racisme et des sociétés occidentales. Mais c'est ça qui va propulser, en fait, on va dire, la carrière de Sacha Baron Cohen à travers ce personnage aussi, c'est forcément son potentiel ultra comique. C'est-à-dire qu'il a pas seulement créé des gros personnages derrière tout cela, c'est qu'en fait, il montre aussi à quel point il peut aller forcément très loin d'une certaine manière, mais qu'il peut aller à très loin aussi, surtout pour développer ses personnages.
Oui, ben, on le verra après avec Bruno, que ça soit avec Bruno ou même avec son personnage dans Les Frères Grimsby, mais c'est vrai qu'il a une capacité à développer des personnages qui est assez folle, et même à être, en fait c'est un peu comme une espèce de, je dirais, du clown, mais du clown contemporain, où il est très présent dans ce qu'il fait et donc on y croit forcément. Je pense à il devait recevoir un prix dans une émission, et il avait fait venir soi-disant la fille qui avait joué dans The Kid et
avec
qui,
Chaplin,
tout à fait, et on y croit quand on est à fond dans ce truc, et il y fait des choses mais horribles, qui sont mais carrément horribles, et où c'est vraiment comme dans le clown, où il lui arrive des choses qui sont extraordinaires,
dans
folles.
Dans ce passage-là aux Oscars, en fait, malencontreusement, il pousse le fauteuil roulant où est installée la dame. Elle tombe de l'estrade et
elle ne se relève pas.
Elle meurt.
Voilà, c'est ça. Ils appellent des pompiers et tout. Et il est censé faire un mot sur elle. Et à la fin, il dit « elle était » au lieu de dire « elle est ». Il fera, si elle était encore vivante, elle nous aurait dit mais des choses qui sont horribles, mais il est tellement sincère dans ce qu'il fait que ça fonctionne, quoi.
C'est ça qui est
assez fou.
C'est sa force, en fait, de donner vie à des personnages vraiment très prononcés, très caricaturaux forcément, mais aussi qui va forcément en jouer sur l'ambivalence, en fait, de ces personnages, et même encore à travers la télévision. Donc on vous revoit Bruno notamment, donc après avoir fait Borat, et on le retrouve encore un peu plus, qui va encore un peu plus loin dans différents personnages, notamment dans The Dictator avec le personnage du général Aladdin, ou encore même Nobby dans Grimsby, qui est une parodie d'un James Bond, tout simplement.
Tout à fait, oui, et là aussi où il va mais très 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 loin, et où il revient quand même un peu, on n'est plus dans, que ça soit avec le Dictateur ou avec Grimsby, on n'est plus dans le mockumentaire, oui, comme il a pu faire avec Bruno et Borat.
Dictateur, il y a un peu une espèce de transition, c'est-à-dire que le début du film, en fait, va jouer vraiment sur un montage presque reportage d'une certaine manière sur ce personnage, et au fur et à mesure, en fait, il y a une vraie intrigue qui se met en place, notamment lui qui va, on va dire, accepter la méthode de vie occidentale, et voilà. Donc, et c'est vrai que bon, Grimsby, en fait, part sur quelque chose de plus actionneur, donc c'est pour ça que notamment d'ailleurs c'est Louis Leterrier qui a la réalisation, donc qui a l'habitude de faire des films qui font vroom vroom pam pam, Fast and Furious. Donc
tu sais que c'est grâce, je crois que c'est grâce à, non il expliquait, mais ça a encore rien à voir, mais grâce à ça il avait fait ensuite Lupin, la série Lupin, et grâce à Lupin c'est ça qu'il a refait les Fast and Furious, comme quoi.
Comme quoi, merci Sacha Baron Cohen. Non, mais en tout cas, cependant, Sacha Baron Cohen ne s'est pas contenté uniquement, en fait, à la comédie potache, il faut quand même le signaler, avec des personnages d'ailleurs beaucoup plus dramatiques. Il a joué notamment Thénardier dans Les Misérables.
Les Misérables, ouais, tout à fait. Magnifique comédie musicale.
Non, il a fait un personnage aussi beaucoup plus intéressant, celui de Abby Hoffman dans Les 7 de Chicago. Je ne sais pas si tu l'avais vu.
Ouais, je l'avais vu, très bon film, et où il est assez impressionnant. Alors,
il y a toujours un avocat.
Ouais, il a toujours ce petit côté où quand on le voit on a envie de rire, c'est Sacha Baron Cohen et tout, et en fait il écarte complètement ça, et non, il est assez bluffant dans ce film.
Parce que c'est un personnage qui est beaucoup plus sarcastique que tous ces personnages forcément comiques, et il a également collaboré quand même avec beaucoup de gros cinéastes, il faut quand même les signaler, notamment Martin Scorsese avec Hugo Cabret, ou encore Tim Burton, bon, avec un film qui s'appelle Sweeney Todd, mais bon, c'est quand même Tim Burton.
Oui.
J'ai pas trop envie de taper sur l'ambulance, mais voilà.
Non, mais tu parlais d'Hugo Cabret, même dans Hugo Cabret, il est très... alors, c'est un film où il fait un gars, il fait un... Pas un garde, mais un contrôleur de billets dans,
oui,
dans le train.
À la gare, à la gare de Paris.
Et il est aussi très très bien dedans, quoi. Ce truc d'un peu... Tu vois qu'il peut faire peur aussi.
Qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui a perdu une jambe, qui a un personnage amputé, donc il a un problème de pouvoir marcher aussi. Enfin, il y a toujours quelque chose de très très intéressant dans ces personnages, dans qu'il arrive à développer derrière, en fait.
Carrément.
Mais c'est vrai qu'on va un peu plus revenir en longueur sur, on va dire, sa grosse partie d'humoriste et sa façon de travailler le politiquement incorrect. Mais on va juste faire une petite pause B au départ, donc, avec un morceau issu du film Borat, donc une reprise de Born to Be Wild.
Ah, très bien, grand succès. Gotta get my
Voilà, donc c'était un extrait issu du film Borat, et oui, donc magnifique film, enfin magnifique, d'une certaine manière, il est là, quoi, donc il est là. Non, c'est vrai que, pour revenir un petit peu plus sur ce qu'on parlait de Sacha Baron Cohen, et là on va donc revenir un petit peu plus forcément sur, on va dire, la matière première de cet homme, comment il est forgé, c'est vrai que c'est... comme je signalerais, en fait, pour toute cette partie-là, en fait, je la qualifierais de Sacha Baron Cohen ou l'art du politiquement incorrect, car il faut quand même le dire, donc c'est un homme qui bouscule les controverses dès le départ, dès l'instant présent, en fait, dès la présence de Ali G, en fait, arrivé à la télévision, de montrer ce personnage qui, en fait, essaye de singer ses idoles gangsta rap, alors qu'en fait, c'est un personnage, un petit blancos qui vient du coin du Staines, qui vit chez sa grand-mère. C'est ça, en fait, tout, la base principale du personnage, c'est ça, en fait, tout simplement. Et en fait, il cherche toujours, à travers la naïveté et la provocation, en fait, de révéler, on va dire, en gros guillemets, le véritable visage, notamment des personnes réelles, donc qu'il rencontre et qu'il confronte, et notamment donc par le biais de différentes interviews, voire autres, comme par exemple dans le dernier film qu'il a fait, Borat 2, donc la suite, notamment avec un certain Rudy Giuliani, qu'il a réussi à piéger dans une histoire un petit peu sordide avec sa fille.
Ah oui, concrètement, carrément, où sa fille, en fait, dans le film, il a donc Borat a une fille dans le deuxième, et sa fille va devenir une grande journaliste, et donc du coup, on dit tout normalement, il est censé la ramener, il veut la ramener en présent à Donald Trump.
C'est ça.
Mais en cadeau. Et finalement, ça ne marche pas. Et donc, elle décide de vraiment devenir une citoyenne américaine et de devenir journaliste. Et elle interview Giuliani, et ça donne lieu à quelque chose d'assez.
Il n'était pas loin de la dérive, certaine manière. Hein. La polémique était très très proche pour lui. Il y a eu quelques textes, mais pas comme certains, et d'ailleurs qui ont dû démissionner, mais ça on en parlera, je pense, un petit peu dans cette émission. C'est vrai qu'il a toujours cette faculté, en fait, de piéger véritablement ses victimes, on peut le dire ça comme ça. Il appuie toujours là où ça fait mal, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'en fait, il a toujours une véritable force là-dessus. de pouvoir en fait vraiment contrôler, d'une certaine manière manipuler aussi, parce que ça, ça a été beaucoup critiqué, la plupart de ses victimes, notamment Sarah Palin, hein, l'avait vraiment traité de tas de merde, par exemple, après son interview, où il était déguisé donc, en espèce de vieux vétéran, donc ça c'était pour son émission de télé With America. Mais voilà, c'est toujours quelqu'un qui a toujours un rapport très, très ambigu, forcément, à travers ses personnages, parce qu'il en sort très très mal, enfin il en sort avec beaucoup de mal d'une certaine manière. Ces personnages ont une importance hyper capitale dans sa vie, mais surtout en fait dans la promotion des films.
Oui, et en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, en tout cas, de mémoire, c'est assez rare. C'est qu'il essaie vraiment de protéger le plus possible sa vie privée.
Oui.
Et c'est vrai qu'on n'entend jamais vraiment parler... Enfin, quand on voit les interviews qu'il fait, ou alors dans de très rares cas, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mm-hmm. Mais sinon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit en plateau, c'est toujours ou Borat, ou Bruno, ou Ali G, ou son personnage dans Les Frères Grimsby. C'est jamais Sacha Baron Cohen, c'est toujours son personnage.
Ouais, c'est alors, vraiment peut-être à partir des Frères Grimsby... Où il a commencé plus à apparaître en tant que Sacha Baron Cohen plutôt que ses personnages, en fait. Parce que c'est vrai que comme c'est un film beaucoup plus fictionnel, on a du mal à retrouver un personnage qui apparaît comme ça à la télévision de nulle part. Là, il a quand même aussi, enfin, on va dire un petit peu délimité ce quatrième mur, chose qui n'arrivait pas auparavant, enfin, qui faisait volontairement en fait face à ça, quoi.
Bah, ce qui entretient aussi, par exemple avec Borat, ce qui entretient, on sait que c'est un comédien et tout, mais du coup ça entretient l'imaginaire de bah, est-ce que c'est vraiment un comédien, est-ce qu'il entretient cette image-là aussi de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, il pose la question de qu'est-ce qu'on nous donne à voir et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Il a toujours semé l'embrouille en fait volontairement entre ses personnages et sa véritable identité, hein. Il a même présenté des émissions en tant que Borat pour les MTV Awards. Il faut le savoir, c'est qu'il y a certaines chaînes de télévision, on pensait qu'il y avait un vrai personnage qui s'appelait Borat Tsagliyev. Donc en fait, il a été vraiment crédité en tant que Borat Tsagliyev dans certains films, hein, dans certains pays, hein, notamment dans les pays d'Europe de l'Est. Ils pensaient vraiment que c'était quelqu'un de ce nom-là et pas Sacha Baron Cohen. Donc c'est aussi sa force, en fait. C'est qu'il arrive vraiment à aller tellement loin que pour certaines personnes qui ne, on va dire, vérifient pas leurs sources, pensent véritablement que c'était pas cet homme-là. Bon, forcément maintenant, à travers le temps, à travers sa reconnaissance publique, il est forcément beaucoup plus difficile
de
jouer là-dessus, quoi.
D'ailleurs, on le voit dans le Borat 2 où justement, quand il arrive, tout le monde fait « Ah ouais, bah oui, Borat. » Et l'intelligence du gars, c'est qu'il s'est dit « Bah oui, mais forcément, ils vont me reconnaître, donc il faut que je trouve une autre chose. » Et il amène la même satire, mais par le biais de sa fille, par le biais d'autres manières. Et c'est ça qui est assez intelligent avec Sacha Baron Cohen, quoi.
Ouais. Et c'est vrai que c'est pour chacun de ses personnages, c'est la même, quoi. Donc pour les avant-premières, il avait toujours été déguisé donc en Ali G, en Borat, en Bruno. En tout cas pour ces trois personnages qu'il avait créés originellement pour la télévision. Mais je dirais, en fait, pour faire un petit parallèle, il est un peu en quelque sorte le Andy Kaufman nouvelle génération, en fait, d'une certaine manière.
Carrément.
Il assimile la réalité de ses personnages fictionnels pour prendre vie, et que ce soit la télévision dans ses films proches du documentaire, donc, et vraiment pour aller tellement à fond dans ses personnages et vraiment, on va dire, se laisser disparaître d'un instant pour donner place et vie à un autre. C'est sa particularité, en fait. Et ça marche, du coup, ça marche très très bien. Les personnages donc de Bruno, de Borat ou encore même d'Ali G ont tellement marché dans l'inconscient collectif, surtout dans l'inconscient collectif anglophone. C'est quelque chose d'indéniable, en fait.
Bah, c'est des personnages qui sont restés, même maintenant, il y a des mots. Alors, moi, c'est vrai que les films, je les ai vus plus en version française qu'en version originale, mais il y a des choses que tu retiens qui maintenant restent, d'autres qui traversent, et qui, on ne sait pas forcément que ça reste d'Ali G ou que ça vient de Bruno ou de Borat. Je vois le Imposton Style qui vient de Ali G, c'est quelque chose qui s'est assez développé et que les gens connaissent sans forcément connaître Ali G ou connaître Sacha Baron Cohen. Il a réussi à marquer, en fait, enfin, à marquer toute une période, quoi.
C'est ça. Et on les reconnaît tout de suite, en fait, par leur accoutrement, par leur culture, par leur représentation, par leur physique aussi, forcément, parce qu'ils se cachent beaucoup, ils se griment beaucoup, en fait. C'est un acteur très caméléon en fait, Sacha Baron Cohen. Et d'ailleurs, ses rôles hein, que l'on qualifie donc de proto-télévisuels, donc Aligi, Bruno et Borat, sont finalement des révélateurs aussi, et ça c'est aussi sa force à travers l'écriture de ses personnages. Donc c'est la force en fait qui ce sont des révélateurs en fait d'inconfortables vérités de son public, et notamment donc ils critiquent indirectement forcément les problèmes que la société rencontre, donc à savoir le racisme, l'homophobie, le sexisme, etc., etc., et surtout forcément la bêtise humaine de manière générale. Il suffit donc de voir Borat, comme je le disais, donc c'est une véritable satire de l'antisémitisme. On le voit notamment avec l'introduction de son personnage qui explique le lâcher de juif, la misogynie aussi à travers toutes les séquences que l'on retrouve face aux femmes. Il va enlever Pamela Anderson dans l'histoire. Le racisme des sociétés occidentales qui forcément en fait il va jusqu'à aller très très loin sur ce cas-là, et ça va même d'ailleurs poser quelques problèmes, notamment pour le film Borat. Il va jusqu'à donc irriter les autorités kazakhes et va même manquer de provoquer une crise diplomatique entre le Kazakhstan et les États-Unis. Donc ça montre à quel point le bonhomme va très très loin là-dessus. Pareil pour Bruno, en fait on retrouve le même principe que Borat, donc c'est-à-dire qu'il va partir à la conquête des États-Unis, provoquant forcément catastrophe sur catastrophe. Il y démontre en fait à travers ce film, et il y même je dirais démorce l'homophobie ambiante et la superficialité en fait de la mode, et repousser notamment les limites de la provocation. Notamment donc comme la séquence d'adoption du petit bébé africain que l'on voit dans le film, là où il va vraiment très très loin, et on trouve ça forcément inacceptable, mais comme il le dit à un moment lui-même, d'ailleurs on l'entend dans la bande-annonce, fait voilà, Madonna elle en a eu un, moi aussi maintenant j'en ai un. Il y a aussi ce côté-là en fait très provocateur derrière, mais pour montrer en fait à quel point aussi, on va dire, la haute société américaine, et on va dire de manière globale la société américaine, je veux dire, dans sa façon de réfléchir, elle est aussi extrêmement critiquée, quoi. Que ça soit forcément chez les rednecks ou que ça soit chez les, en gros guillemets, bien-pensants libéraux que l'on peut voir dans certains films.
Il attaque tout le monde, quoi.
D'objectif ultra précis. Enfin, oui, non. Il est très frontière dans ses missiles, on va dire. Voilà.
Il se limite pas, et en fait, il a vraiment, quand il y a quelque chose qui le tient à cœur et qu'il a envie d'en parler, c'est qu'il y va, quoi. Il y va. Tu parlais de l'antisémitisme, effectivement, c'est un de ses fers de lance. Enfin, de lutter contre l'antisémitisme, c'est un de ses fers de lance. Il y va, quoi. Il n'hésite pas à caricaturer, alors que lui-même, on l'a dit tout à l'heure, est pratiquant et tout. Il n'hésite pas à utiliser les images de caricature du juif pour justement montrer qu'il y a un réel problème, il y a un antisémitisme ambiant qui est encore présent. Par exemple, dans Borat, où il chante une chanson un bar, on jette les juifs dans le puits et tout le monde chante avec lui.
Ça montre à quel point ce qu'il veut montrer à travers toutes ces séquences, c'est que c'est très très facile d'orienter les gens en fait sur un acte, un avis, voire même en fait une décision. Et il le fait aussi également la même chose avec Bruno, où il y a une séquence qui a même failli tourner à l'émeute, hein. Il y a une séquence en fait de séquence de combat de free fight en fait de MMA, où il est face à un autre mec, et en fait à un moment donné durant le combat il s'embrasse jusqu'à vraiment s'enlacer sur le bord du ring, et ça a failli provoquer une émeute en fait dans la salle. Donc ça montre à quel point aussi l'homophobie ambiante peut être très facilement détectable dans ce genre de cas, quoi.
Carrément, et par exemple, que ce soit alors dans The Dictator, il l'amène déjà, mais dans la série Who is America, il l'amène aussi, une acceptation de l'islamophobie qui est aussi assez horrible, quoi. Et d'avoir quelqu'un qui se lève et qui dit oui, moi je suis ouvertement, j'aime pas les musulmans. Je le sais, et je le dis ouvertement.
Il y a une séquence comme ça, dans Who is America, qui est sa série télé qu'il avait fait notamment pour HBO. Il y a une séquence où il joue un personnage de libéral-démocrate, et donc veut expliquer qu'à travers un ancien bâtiment, il veut rénover et mettre en place une mosquée. Et là, il y a toutes les personnes, on va dire, de la banlieue qui sont ouvertement contre. Ah, oui. Et là, ça déborde en fait de véritables haines. Hein. C'est vraiment assez effarant. Et il arrive toujours à tourner ça en dérision. C'est-à-dire qu'on en rigole, on en rit jaune, forcément.
C'est ça,
mais il arrive toujours à tourner d'une certaine manière qu'on se rend compte en fait que ces gens sont d'une bêtise incroyable. Et il arrive toujours à garder, on va dire, cette structure-là. C'est très, très difficile d'ailleurs pour être un comique. Surtout, je dirais même encore maintenant, pour vraiment jouer sur le côté très... très provocateur, il a vraiment toujours en fait cette façon et cette faculté en fait d'arriver à une subtilité très très rare, d'avoir de taper là où ça fait mal, mais de montrer toujours à quel point, en fait, ça montre aussi, surtout, comment... pas une seule personne, mais d'une certaine manière, le public aussi peut facilement se tourner dans ce genre d'acte ignoble. Ça, c'est l'une de ses grandes forces, quoi. Bon, il y a plein d'autres exemples de cette manière-là.
Il y en a plein, mais c'est ça qui est fort avec lui, et il va jusqu'au bout de ses idées, quitte à ce que des fois, il a pu avoir des remontrances...
Il en a eu
beaucoup, quoi. Et où des fois il a dit, voilà, ben il a regretté des moments, la façon dont ça s'est passé, mais en même temps il met le doigt sur des choses qui font, enfin, sur des choses horribles, quoi, que ça soit, on le disait tout à l'heure, que ça soit dans Woozy America, dans Borat, même dans le Borat 2, quoi. Mais c'est des trucs. Après, à côté de ça, t'as des trucs très drôles où il te fait croire que c'est Borat qui a filé le Covid à Tom Hanks.
Ouais.
Et que c'est débile. Mais c'est drôle. Et du coup, il y a ce truc entre. Il y a quelque chose d'important, il y a vraiment des sujets de fond, et à côté, il arrive à amener cette comédie, cette manière d'en rire, qui fait que c'est des très, très bons. Très bon film, en fait.
Et puis il joue, en fait, sur le côté comique par la réaction, en fait, de son public. La réaction, en fait, de son public, parce qu'il, finalement, s'est vu aussi également à travers les personnages que l'on peut voir à la télévision, à la télévision, et surtout à travers le cinéma dans ses films. Dans Borat, c'est exactement ça. C'est-à-dire vraiment jouer sur les clichés sexistes, racistes, homophobes, antisémites, tout en filmant la réaction des Américains dans la vraie vie. Purement et simplement, en fait, la représentation totale du film. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc, qu'on parlait des problèmes avec les autorités kazakhs, donc qui au départ a été très très contre, et d'ailleurs le film avait été interdit là-bas, va finir finalement au bout de quelques mois par le remercier pour avoir, en fait, contribué au développement du tourisme dans le pays. Donc à quel point ça peut changer du tout au tout.
Et ce qui est drôle aussi à savoir dans Borat, c'est qu'il parle pas du tout kazakh, et c'est un mélange de yiddish, il me semble, de russe. Et les autres langues, je sais plus, mais il y a au moins 3-4 mélanges de langues. Mais c'est drôle, quoi, de savoir qu'il t'invente un langage avec les langues que lui connaît et qu'il arrive à parler, et du coup qui fonctionne, quoi, t'y crois à fond.
Et surtout, en fait, c'est très surprenant parce que généralement, dans ce genre de cas, en fait, le comique va toujours utiliser, on va dire, un pays fictif. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire pour The Dictator, parce que là, c'était un petit peu plus compliqué de dépeindre un personnage comme ça. Mais ouais, en fait, il a une force incroyable de vraiment, en plus, jouer forcément sur l'actualité, sur la géopolitique de l'époque. Quand The Dictator est sorti, il a fait carrément deux vidéos. Une, c'était pour les élections en France. C'était en fait pour notamment féliciter soit François Hollande, soit Nicolas Sarkozy pour le gagnant des élections, des élections. Et d'ailleurs, c'était François Hollande qui l'avait gagné, donc il avait remercié Monsieur François Hollandès pour sa victoire. Et s'il pouvait pendre après Monsieur Sarkozy. Ça, c'était une autre histoire, d'ailleurs. Mais oui, donc il a toujours cette force et cette faculté de jouer vraiment à fond les ballons, en fait, sur ses personnages. Et c'est pour ça, en fait, que d'une certaine manière, c'est quelque chose de très, je dirais pas éphémère dans sa critique, parce que forcément, à travers le temps, ses personnages, en fait, ont un petit peu, d'une certaine manière, disparu. Même peut-être à part Borat, parce que ça a été un raz-de-marée énorme. Mais ça tape toujours, en fait, forcément sur le contexte de l'époque, et forcément le revoir par moment, ça peut être un petit peu plus différent. Alors, certains films, d'ailleurs, ne jouaient pas à fond là-dessus. Ali G, d'ailleurs, ça, je trouve que c'est un film qui a très très mal vieilli pour le contexte. Mais par exemple, avec Grimsby, vous prenez l'introduction du film, en fait, qui montre le côté très satire, en fait, de la société, en fait, bas de classe britannique. On est... c'est bête à dire, c'est bourré de clichés.
Ah, mais carrément.
Mais ça en est super drôle. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce côté...
Il rase les cheveux de ses enfants pour être sûr, pour faire croire qu'ils ont la leucémie et pour toucher les allocs.
Voilà, pour toucher les allocs.
Lui, il est dans une famille où ils sont 12 enfants, je crois.
Ouais.
C'est une famille recomposée. Lui, il ressemble à un des frères Gallagher. Enfin, c'est...
Alors oui, pour la petite histoire, en fait, donc c'était... Liam Gallagher, donc un des cofondateurs d'Oasis, donc avec Noël, qui avait dit, donc après avoir vu la gueule de Sacha Baron Cohen, qui avait notamment dit dans une interview qu'il s'était inspiré de ses cheveux pour faire son personnage, il avait dit, si je le rencontre, je lui mets mon poing dans la gueule.
Mais non, mais tu vois qu'il se moque de. Enfin, d'ailleurs, il, dans le film, il dit un moment, parce que, enfin, il se trouve que ce gars-là, le personnage qu'il joue, c'est un beauf, mais c'est pas un, mais c'est un beauf, mais
c'est le gentil, un beauf, gentil beauf, quoi. C'est ça. C'est.
Il est très naïf et il a envie juste d'une seule chose, c'est retrouver son frère, qui est joué par Mark Strong, qui a l'habitude de faire que des films d'action, et là, il se retrouve dans un film où il se fait sucer les couilles par Sacha Baron Cohen, et tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, et ça encore c'est le plus soft, il y a
une scène avec l'éléphant, mais on en parlera pas.
Et il y a une scène, un moment où il aime bien les femmes, et il aime bien les femmes qui sont très en chair, et il se trompe de personne et il drague une personne qui est employée de maison et qui fait les ménages,
la dame à la robe verte. Tout mais sauf fait. Qu'en fait la robe verte c'est pas les robes de on va dire des personnes qui s'occupent de l'entretien, mais
d'une autre dame, et il se trompe et il couche avec elle, et à la fin t'entends que cette femme elle a porté plainte pour harcèlement sexuel contre Liam Gallagher du coup.
Et d'ailleurs, Trump a le sida aussi, non?
Oui, Trump a le sida, mais oui, voilà. Non, mais après, alors, sous couvert de blagues et d'humour, t'as quand même un petit sujet de fond aussi dans les frères Grimsby, que ça soit alors après autour de l'amitié et tout peut-être, mais à côté aussi par rapport aux ONG, aux valeurs des ONG, qu'est-ce que ça fait vraiment, est-ce que c'est vraiment pour lutter pour quelque chose, ou alors au contraire est-ce que ça fait appel à des besoins aussi qui sont des besoins personnels. Donc il y a des choses aussi qui sont
exactement.
Avec la comédie, il amène aussi un sujet de, comme tu disais tout à l'heure, en fait un sujet de fond qui est en rapport aussi avec la période où ça a été tourné, quoi.
Bah surtout tous les films en fait où il est producteur scénariste, hein, comme je disais, donc Aligi, Borat, Bruno, Dictator, Grimsby ou Borat 2, il y a toujours cet aspect là en fait, et dans certaines fins de films en fait il y a toujours presque peut-être le plus représentatif aussi de ça, c'est The Dictator, où il a vraiment presque une morale à la fin, où il explique finalement comme quoi on peut être aussi une grande démocratie dictature à la fois, et il prend l'exemple en fait de tous les maux politiques de la société américaine, et il leur développe comme quoi ça peut être également le cas dans un autre pays du Moyen-Orient, ou voire même du tiers-monde, et il rabasse ça dans la gueule directement en fait envers le public américain, parce que ce film parle surtout à travers
au public
américain.
Ouais, carrément.
Et ça marche énormément. Après, je dirais public américain, mais le public occidental, forcément, il est toujours pas très très loin de la frontière aussi. Hein.
Oui, c'est sûr, oui, parce que t'as une culture qui est assez commune avec les États-Unis.
Exactement.
De toute façon. Donc ça peut se répercuter aussi sur l'Europe, ou de manière générale sur la culture occidentale, quoi. Tu le retrouves aussi en Europe, quoi.
Exactement. Alors pour le coup, donc on va faire une petite pause BO. On va donc faire un petit morceau issu du film Grimsby, c'est Blur, Park Life.
Très bien.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
Park life.
nothing to do with your four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round.
Et voilà, donc c'était un morceau que l'on entend dans Grimsby au tout début pour représenter cette magnifique ville de Grahams Bay. Donc on est vraiment dans la banlieue très très éloignée de Newcastle. C'est on va dire, c'est pas les meilleurs endroits d'Angleterre.
Non, 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 mais tu le vois, tu le vois dans
et
l'image.
Et c'est génial parce qu'en fait, tout le début du film, vous avez... toute l'introduction du film se présente par le personnage à travers de Mark Strong, où vous avez vraiment une séquence d'action... Tout en vue à la première personne, en GoPro, c'est hyper haché, c'est presque dégueulasse à filmer, c'est une actionneur pur et dur. On se dit, ah oui, c'est lui le Terry à la réalisation, ça on reconnaît. Et juste après, vous avez l'introduction du personnage donc de Sacha Baron Cohen avec toute sa famille à Grimsby, et vous voyez toute la pauvreté d'Angleterre. Vous voyez vraiment les quartiers dégueulasses, les rues, les routes complètement défralées. Vous voyez une file d'attente, c'est le chômage en fait. Il n'y a que ça en fait, c'est vraiment pour représenter vraiment on va dire les paumés d'Angleterre quoi. Mais il y a ce côté presque attachant en fait d'une certaine manière, parce que c'est pas uniquement moqueur en fait, comme tu disais, il y a une certaine naïveté dans ces personnages qui en fait leur donne un attachement en fait très particulier contrairement à d'autres quoi.
Oui mais là tu parles de Grimsby, mais c'est vrai que tu vois qu'il y a un attachement particulier, que c'est pas du tout pour ce, il y a pas de moquerie en fait. Et justement lui qui vient d'une classe moyenne aussi, il connaît ça, donc tu vois que c'est pas, il y a aucune moquerie dedans. Et puis c'est aussi montrer d'une certaine manière les deux envers des banlieues anglaises quoi. Ouais. Et de montrer aussi ce que c'est une banlieue anglaise quoi, de dire bah ouais, il y a aussi des gens qui viennent de là, et de pas dire que bah voilà, c'est, il a beau être un beauf et tout, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, tu le vois dans le truc, il est très famille, il a des raisons d'avoir choisi cette situation là. Et
parce qu'en fait on voit donc des séquences flashback où il perd son frangin, parce qu'en fait son frangin s'est un peu sacrifié pour que lui vive dans une bonne famille, mais en fait c'est l'autre qui va être finalement choisi, enfin du coup ils sont séparés et du coup il a jamais pu revoir son frère. Il y a tout un côté, un contexte un petit peu triste social là-dessus. Carrément. Mais c'est vraiment tourné à la dérision, donc en fait c'est on est même pas et puis surtout quand tu le vois réapparaître en fait, donc c'est surtout de cette façon assez crue de jouer là-dessus. Mais non, c'est vrai que...
Oui, parce que je crois que tu les vois, la première image où tu les vois, c'est tu les vois en train de... C'est avec... j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui est australienne. C'est elle qui fait sa femme.
Rebel Wilson.
Oui, voilà, c'est avec Rebel Wilson où tu les vois, ils sont sur un lit en train de coucher, on comprend. Et en fait, ils sont dans un magasin de literie et ils font ouais, c'est bon, on prend celui-là, quoi.
Oui.
Et donc, tu vois, tu commences... C'est la première fois que tu les vois, c'est, tu les vois là, quoi. Et c'est assez exceptionnel. Mais ça, t'as le contraste tout de suite quoi, de ça, et depuis après t'as l'image de ah tiens, il vient de voir son frère, il y a son frère qui est parti, donc t'as toujours ce contraste là de d'accord on rigole, mais il y a aussi autre chose à côté.
Exactement. Du coup, on va terminer cette émission avec un petit tour de table. Quel rôle de Sacha Baron Cohen nous a le plus marqué? Alors, bon, je pense que tu as envie de reparler peut-être de Grimsby.
Écoute, Grimsby, je pense que c'est le meilleur, c'est le film. Alors, j'adore hein, tout ce qu'il a fait. J'ai commencé avec Ali G, qui m'a fait beaucoup rigoler aussi. Borat, avec mon père, on s'est regardé mais des tonnes et des tonnes de fois Borat. Alors, je l'ai jamais vu en VO. Alors, je dois avouer que j'ai toujours regardé les films de Sacha Baron Cohen en VO. Alors, en VF, pardon. Sauf sur Borat, sinon il est tout le temps doublé par Emmanuel Curtil. Et Emmanuel Curtil, qui est la voix française de Jim Carrey et aussi de Matthew Perry, il arrive à apporter quelque chose, il arrive à ne pas dénaturer ce que fait Sacha Baron Cohen, et c'est assez fort.
C'est très très dur en plus.
Ouais, non, c'est pas simple, surtout sur de la comédie et sur un personnage comme Sacha Baron Cohen, c'est pas simple.
Et surtout qu'il développe tellement en fait différentes voix, notamment pour Ali G, il a vraiment ce côté où il parle un peu comme un Rastafari avec presque un cheveu sur la langue d'une certaine manière. Dans Borat, il a vraiment, bah, comme tu disais, il a vraiment
un... comme ça, ouais,
voilà,
et puis, oui, c'est surtout, un mélange de langues en plus. Donc, ouais.
Et Bruno, là, il parle sur un petit côté germanique et, et il, forcément, il force le trait sur le personnage qui est gay, donc forcément, ça, il essaye aussi de le retravailler sur cette voix-là.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il va très très loin en fait sur l'accentuation de ses personnages.
Ah oui, il y va à fond, quoi. C'est justement, c'est pour pouvoir critiquer, il fait un stéréotype du personnage, mais un gros stéréotype, mais vraiment, c'est ce qui nous amène à rigoler, parce que tu te dis, c'est pas, voilà, tu sais que ce personnage est un stéréotype, quoi. Mais c'est ça qui fonctionne. Et si je devais choisir, ouais, je dirais que c'est Grimsby quand même, parce que ces deux frères, tu t'attends à avoir au début, tu dis, oh, ça va être un film d'action assez somme toute classique et tout. Et tu te retrouves à être en fait dans une vraie comédie.
Et non, où il suffit de regarder la jaquette et tu vois, c'est écrit par Sacha Baron Cohen.
Bah oui, mais c'est ça. Et en fait, oui, tu le sens tout le temps et tu te demandes à chaque fois, tu dis, mais pourquoi Mark Strong, il a fait ce film-là?
Ah oui, mais pourquoi, comment ils ont accepté ces rôles-là? Parce que ça, pareil, ouais. Il y a Penelope Cruz. À un moment donné, quand même, elle se prend une fronde dans la gueule avec une capote, hein, donc.
Oui, non, mais c'est exceptionnel, t'as ça, t'as des fausses sosies.
Bon, alors, il y a des fausses
sosies
de Daniel Radcliffe et de Trump, mais ça, c'est une autre histoire.
Qui prennent du fin. Trump a le sida, Harry Potter aussi, et il dit une phrase qui est quand même magique, il dit t'as réussi en une heure à faire ce que Voldemort n'a pas réussi à faire en 8 films. Et c'est quand même assez exceptionnel. Non, mais tout est très bon, en fait. Après, j'adore, c'est pas du tout, si on recherche vraiment le Sacha Baron Cohen pur et dur, donc dans la veine des mockumentaires et tout, c'est pas du tout ça, faut être prêt, mais ouais, je trouve que c'est vraiment, ça va très très loin, et en même temps c'est très très drôle, quoi.
Ouais, on va sur un côté très jouissif en fait, très, très dénaturé, mais après forcément il y a ce côté un petit peu plus moins double lecture, on va dire, dans ce film.
Oui.
Mais par exemple, par le grand final, en fait, vous vous rendez compte qu'à quel point ce film est con. Il y a d'une certaine manière aussi sur cette volonté de critiquer, ouais, comme tu disais, un peu les ONG quand même dans ce film, quoi.
Et après, si je devais choisir vraiment sur la pure critique et tout, alors j'aime beaucoup les films, mais j'irais plus vers la série Who is America,
ouais,
qui je trouve est exceptionnelle et qui a, c'est à voir absolument.
Oui, c'est à voir absolument. Je vais rebondir là-dessus d'ailleurs, parce que je pense que je voulais en parler également. Donc, Who is America, donc, c'est une série de mockumentaire de 7 épisodes de 25 minutes. Là, on est sur une vraie satire de la société et le monde de la politique américaine. D'ailleurs, plusieurs personnages de Sacha Baron Cohen vont être créés spécialement pour cette série-là. Notamment, on retrouve, donc, c'est que des personnages qui sont incarnés par Cohen, en plus. Hein, donc, notamment, il y a Billy Wayne Ruddick, donc c'était le militant d'extrême droite, complotiste à mort, qui va poser des questions ultra tendancieuses pour piéger ses candidats, notamment aux élections. On a le docteur Nira Degiocello, qui est l'activiste libéral-démocrate. C'est notamment avec le sketch, comme on disait,
sur le Texas,
et notamment aussi
l'arrivée d'une mosquée. Une ville.
Voilà. Rick Sherman, là, on a une espèce d'artiste condamné récemment libéré après 21 ans de prison, en fait, qui utilise des fuites corporelles pour ses œuvres. Et je peux vous dire que quand vous avez toute la haussphère sociétaire américaine qui se retrouve face à ces tableaux, c'est particulièrement hilarant.
C'est n'importe quoi.
Un de mes personnages préférés, parce qu'il est d'une connerie abyssale, c'est Eran Morad. C'est l'ancien agent du Mossad qui est maintenant expert antiterroriste israélien, qui explique notamment qu'il faut armer les enfants de 6 à 14 ans dans les écoles. On a encore Ciao Manaldo, donc le playboy milliardaire photographe italien.
Oui, j'avais complètement oublié qu'il y avait lui aussi.
Oui, oui. Bon, on le voit un petit peu moins, en fait, dans cette série. Mais c'est vrai que c'est assez fou, parce qu'en fait, cette série-là, on était quasiment au moment des élections américaines, où ça allait vraiment de bataille en bataille et de polémique en polémique à foison sur la société de manière générale. Et il faut le savoir quand même, c'est que dans le deuxième épisode, donc, on a notamment un certain Jason Spencer, qui est un élu républicain, qui s'est fait piéger. Et je vous conseille de regarder cette séquence, parce que le mec, il a plus de frein. Il part direct avec Sacha Baron Cohen, qui l'a piégé de façon magnifique. Et donc là, en fait, le lendemain, il a été contraint de démissionner suite à ses propos racistes et son comportement scandaleux que l'on voit à travers l'émission.
C'est mieux de pas vous. C'est, on peut pas vous. Enfin, c'est mieux que vous le voyez, en fait. Si on vous le dit, ce serait dommage. C'est assez édifiant, quoi. C'est assez fou.
Ah oui, non, mais ça reste intéressant. C'est peut-être pas son meilleur programme non plus, mais je trouve qu'en fait, il y a un côté très... très viscéral en fait, très très vénère en fait dans cette série là, cette série documentaire. Et d'ailleurs, il piège beaucoup de monde. Hein. Ça va des démocrates aux républicains. Donc il comme on disait en fait, il y a pas de réelle frontière. Il attaque tout le monde quoi.
Oui, voilà. C'est dès qu'il a un but, c'est vraiment c'est tout. Il va attaquer tout le monde. Il a aucune, comme tu disais quoi. Il a vraiment aucune limite.
C'est ça. Alors, je dirais pour d'autres aspects aussi de ses rôles et de sa filmographie, il y a aussi un personnage que j'aime bien en fait dans ce film parce que c'est aussi un film que j'aime bien. Et là, on est vraiment encore sur le côté comédie américaine potache, mais dans un style beaucoup plus différent, notamment à travers la bande de Will Ferrell avec Adam McKay, donc Ricky Bobby, Rollie Circuit, que tu as également vu, je pense, Guillaume. Donc, c'est une véritable satire américaine, on va dire, sur la réussite, le monde du sport automobile et surtout, forcément, le sponsoring que l'on voit à travers ce film. Là, en fait, Cohen joue l'antagoniste qui s'appelle Jean Girard, donc pilote français ayant tout réussi en Europe et qui s'essaye au NASCAR. Et je trouve qu'en fait on retrouve une fois de plus en fait ce qu'il fait en fait à travers ce film. Pourtant c'est pas lui qui a écrit, c'est pas lui qui a réalisé ni produit. Il a un personnage qui est très intéressant parce qu'en fait il pourrait facilement correspondre à tous les autres personnages dont on a parlé dans cette émission. En fait on retrouve une fois de plus en fait la confrontation en fait entre deux civilisations avec vraiment les mœurs et coutumes qui vont avec en fait. C'est-à-dire qu'il est face vraiment donc à Ricky Bobby, donc le personnage campé par Will Ferrell qui est vraiment le beauf américain de base, le mec qui va gueuler ouh à chaque fois qu'il va gagner une victoire ou un truc comme ça, enfin vraiment la caricature complète américaine. Carrément. Et de l'autre côté Jean Girard qui joue le français, donc un peu la haute sphère sociétaire européenne, très propre sur lui, même bourgeoisie, qui en plus donc est marié à un dresseur de berger allemand, qui en plus se sponsor Perrier parce que voilà, faut représenter le truc, alors que Ricky Bobby c'est plus les bières américaines et le Pepsi. Il y a vraiment ce contraste qui est effarant là-dessus,
l'élégance
quoi.
contre la
beaufitude.
Ouais, voilà,
c'est totalement ça dans ce film quoi. Et c'est quelque chose qu'on peut revoir un peu finalement à travers tous ces films, à travers tous ces différents films, comme Bruno, quand on le voit donc faire une partie de chasse avec quatre rednecks dans un feu de camp, ou encore donc Borat qui se retrouve dans une maison mitoyenne campée par une famille juive. On a aussi cet aspect-là dans Ali G, où finalement quasiment tout le film en fait c'est lui qui sert en fait de plateau de base pour les conservateurs britanniques qui veulent en faire un représentant jeune de leur sphère politique, alors que lui il s'en fout royalement. Et en fait il va détourner cette situation là en gardant sa propre attitude. Donc il y a toujours vraiment ce contraste en fait qu'il aime bien se montrer, ce choc de civilisation en fait, et c'est toujours très intéressant dans ce qu'il fait en fait là dessus quoi.
Ah ouais, carrément. Non mais Tout est intéressant à voir, même s'il y a des films qui ont été effectivement... C'est vrai qu'Ali G, c'est vrai que maintenant, quand tu le regardes, il a quand même un peu vieilli.
Je trouve qu'il a quand même vieilli.
Mais il y a toujours des choses intéressantes à trouver dedans, dans l'intégralité, dans les films qu'il a pu faire. Quoi.
Ouais, et je terminerai donc cette émission par plusieurs phrases qu'il a dit, notamment donc, lors d'une intervention en tant que Sacha Baron Cohen, à travers une autre soirée pour... parler notamment de tous les divergences sur l'antisémitisme, le racisme, etc. Il disait donc, lorsque Borat a réussi à faire chanter tout un bar en Arizona, jetons le juif dans les puits, alors on a révélé l'indifférence des gens à l'égard de l'antisémitisme. En tant que Bruno, j'ai commencé à embrasser un homme dans un combat de cage en Arkansas, ce qui a failli déclencher une émeute. Cela a montré le potentiel violent de l'homophobie. Ce qu'il voulait dire, donc, à travers tout cela, c'est que montrer quelque chose frontalement aux personnes qui en sont véritablement opposées mais qui ne sont pas confrontées avec, montre la véritable identité aussi. Et ça, c'est sa force, en fait, je pense, à travers l'image, à travers même ses improvisations, parce qu'il est très, très balèze en improvisation, Sacha Baron Cohen, et c'est sa grande force, en fait. C'est ce qu'il arrive à montrer à travers ses films. Alors forcément, comme on a parlé notamment dans Borat 2 et surtout Wiz America, il y a énormément de manipulation d'image. Ça, il faut quand même le signaler.
Oui.
Mais il a toujours cette force et cette capacité d'appuyer toujours là où ça fait mal. Et ça, c'est quelque chose de très, très audacieux pour un comique de sa trempe.
Et puis il y va, enfin chaque année, enfin à chaque fois qu'il refait un autre projet, il y va, il a pas peur d'y retourner quoi.
Mm-hmm. D'ailleurs, ouais, il y avait la rumeur comme quoi cet été il aurait préparé un Ali G 2 qui pourrait arriver potentiellement. Là, on va le retrouver dans un Marvel. Donc on va voir ce que ça vaut la série Ironheart.
On va voir. Mais ouais, non, bah après ça peut être très bien comme ça peut être très le problème, tu vois, c'est que ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais. Tim Burton, il avait fait le premier Alice, il avait fait Sweeney Todd, il a fait aussi Alice au pays des merveilles le deuxième.
Ouais. Et où c'était pas du tout marché, hein, c'est catastrophique.
C'était très mauvais, c'était pas très bon du tout.
Et je parle pas de la qualité du film, hein, je parle du box office, c'est quel point.
Non mais voilà, ça dépend. Mais moi j'ai confiance en lui, je me dis que il peut apporter quelque chose. C'est vrai que j'y pense là, mais il y avait un moment où il était peut-être prévu qu'il fasse aussi un film sur Freddie Mercury.
Oui, c'était une blague. Ah, il l'a dit lui-même.
D'accord, hein, moi je croyais que c'était vrai du coup, tu vois, parce que j'aurais vraiment, je pense que, en tout cas je trouve que dans le physique, il a quelque chose de Freddie Mercury qui aurait pu être vraiment très très excellent.
Ah, c'est un acteur très bon, hein, qui a un vrai côté art dramatique, hein, comme on vous le conseille, les 7 de Chicago par exemple, c'est le film d'Aaron Sorkin qui est vraiment excellent à voir, et je vous le conseille, il est disponible sur Netflix, donc si vous avez la plateforme, je vous le conseille véritablement. Pour le coup, donc on va s'arrêter là-dessus avec un petit morceau du film The Dictator, et on revient donc la semaine prochaine avec un tout autre sujet.
Un autre sujet.
Ah oui, ce sera différent, je pense, hein, cette fois-ci. Peut-être.
Allez, on vous dit au revoir. Merci beaucoup, Excellent.
Merci, Guillaume.
Merci, Roland.
Merci, Pierre. À la prochaine.
À la prochaine. Grand succès.
اللي اجى الزعيم العظيم
على دين ماذا فقر
لا 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 الشعب يقول اني حاكم كريم
اي 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 ايوه لك تعرفون من هالشخص يا ماذر فقر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن
الكبير عظهم ركضهم مثل بولت خلي اسمعني اني قطلع الصوت عربي حبيبي يلا نجتمع الحوت فرديقة تسمعين بيبيت الروسين بالكلار سكرانين خدرين الكل ينتخلون حياة مأساة ولا تمنعين سجمون ونربط كل الليلة وما نهتم بشي نتت رشاشة للبنت وما حد ما سمع شي بنات باعوني غريبا ولا اهتم خليني اياك قبل ما شد شعري اهم يا بنت صبتي امشي الجو مسمم اخذي طلقة واتربي وروحي لجهنم وما كان وما جاي سمي ابو الراب واذا وقفوش بنت لا يطلع كلام ارحل ارجع عشكل تنجح بس اذا تعترفين بالاكس ممكن تنسين شوية بس
إنه الجنرال ألادين
ألادين ماذا فقر
لا 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 لا
والشعب يقول إني حاكم كريم حايم شوارع مدينتين واسين ملك البيت تكيف ليهم في الفليل كوب دفيل حبيبي كاسح عالدوبس حاسي كيف وبدي ووب يا زول وات جنرال علاء مركن كاديلاك شوفوا مرتاح شارب شوية ياك سلاح معاك يا باشا ماسك كل حلة من هيب السيد الكوينيز فيل البراونز فيلا من هارلم لين اللور ايست سايد نيويورك سيتي نيويورك بحبها بتذكرني بوادية عموما شوفني داخل 40 كلاب مع جينزي وفريقي شوية شراب ودخان امريكي رجعت البيت مع واحدة فريكي حبيبي شوف 2012 اهو من الحق الجنرال ابيسود
Hold up, hey, Sachen will a better episode. 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 Hey, Sachen will a better episode. Hey, Sachen will a better episode. Hey, Sachen will a better episode.